Je suis Solange Siri. Je souhaite créer, par ce podcast « Maman au-delà de l'inceste », une énergie nouvelle de richesse et de résilience pour redonner espoir aux mamans qui souffrent dans leur solitude. Ne pas regarder ailleurs en se faisant croire que tout cela n'est rien et qu'on peut bien avancer en laissant cela derrière soi et en même temps toucher du doigt ou de l'oreille du cœur que y arriver et transformer, c'est possible. L'amour, la joie, la paix sont possibles pour les mamans qui ont survécu à l'inceste. Se réunir pour informer, inspirer, éveiller, se reconnaître et s'aimer. Dans cet épisode de Maman au-delà de l'inceste, j'ai le grand plaisir d'accueillir Anne-Sophie Domergue, artiste lyrique, thérapeute par la voix, maman et survivante d'inceste. Cet épisode n'est sans doute pas facile à entendre, mais il est très puissant, riche en pistes de compréhension et en sagesse, rempli de gratitude, de vulnérabilité, de force et de douceur à la fois. Anne-Sophie témoigne de son corps à corps tumultueux contre la boulimie vomitive, maladie qui est l'un des plus graves et persistants symptômes des conséquences traumatiques dues aux fellations imposées par son grand-père alors qu'elle n'était qu'une petite fille. Elle partage aussi l'emprise à son statut de femme soumise, emprise à laquelle elle se libère progressivement aujourd'hui, autre conséquence directe de son enfance traumatisée. La maman survivante et résiliente nous invite à écouter notre propre intuition, au-delà des peurs et blocages du mental, au-delà de la culpabilité qui est normale et dont on peut faire quelque chose, un pas après l'autre. Si cet épisode est trop douloureux à écouter pour toi, respecte-toi. Prends tout ton temps, petit bout par petit bout peut-être. Mais je te souhaite de pouvoir bénéficier des nombreuses pépites apportées tout le long de notre échange. Je te souhaite une belle écoute. Bonjour Anne-Sophie.
Bonjour Solange.
Je suis tellement heureuse de te retrouver ici et de te recevoir dans ce podcast Maman au-delà de l'inceste.
Merci Solange, merci de m'inviter. Super.
Bah écoute, je vais te laisser te présenter dans un instant. Avant, je voudrais juste introduire un petit peu le contexte de notre rencontre. En fait, ça fait quand même... alors, je crois que c'était il y a bien 2 ans, 2021, je pense, où j'ai eu la chance, franchement, je dis une chance parce que ça a été très révélateur pour moi, de participer à un des stages que tu fais et à la faveur des confinements et autres Covid, tu le faisais à l'époque en ligne, je ne sais pas si c'est toujours le cas. Ce stage qui s'appelle Hypnose et Voix. Et ça a été vraiment un moment merveilleux pour moi parce que j'ai eu beaucoup de moments magiques. Et notamment, il y a eu un moment où tu m'as fait me rencontrer avec ma petite voix et nous projeter ensemble en fait, vers les grandes choses que nous allons que je pouvais faire grâce à ma voix. Et donc, dont ce podcast, dont plein de choses magnifiques que je suis heureuse de porter. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de gratitude pour la rencontre que j'ai faite avec toi, en fait, et tout ce que tu apportes. Donc, je suis heureuse de pouvoir t'accueillir ici pour que tu nous en parles et que tu inspires peut-être aussi d'autres mamans qui sont dans la détresse. Est-ce que tu veux bien, du coup, te présenter?
D'accord, merci Solange. Oui, effectivement, je suis hypnothérapeute aujourd'hui. Depuis 10 ans maintenant, et je suis spécialisée dans la voix. Pourquoi ? Parce que je suis aussi artiste lyrique depuis maintenant presque 30 ans, enfin, j'ai fait 25 ans de scène en tout cas dans le monde entier, et je connais très bien le concept de la voix. Mais d'abord, la voix pour moi, ça a été une thérapie, ça a été juste de chanter, ça a été une façon d'exprimer ou de sortir un cri en tout cas de... voilà, quelque chose qui était coincé dans la gorge et je voulais chanter, je voulais absolument chanter, crier. Et donc j'ai appris l'opéra qui a permis pour moi de, de vraiment trouver un exutoire en fait à tout ce que j'avais vécu. Et puis donc en tant que thérapeute, je me suis dit le domaine de la voix doit vraiment être exploré davantage. J'ai mis effectivement en route ces concepts de hypnose et voix, de mêler les états de conscience modifiés avec la voix, puisque pour moi, la voix de la personne est collée à son âme, à son identité, et que même au téléphone, par exemple, on peut déjà connaître beaucoup de la personne rien qu'en entendant sa voix, en fait. On peut déjà entendre toute sa personnalité, ou en tout cas une grande, grande partie de sa personnalité à travers sa voix, le son de sa voix. Donc effectivement, pour moi, c'est un domaine, je dirais, facile et on peut aller tellement loin dans l'exploration intérieure en fait de la personne juste par la voix, sans forcément chanter, je précise, puisque ça c'est souvent la peur qu'ont les gens, c'est non mais je sais pas chanter, mais non vraiment il n'y a aucun problème, il n'y a pas de chant nécessaire, c'est juste la voix parlée et le son de la voix. Donc, oui, merci. Je ne fais plus aujourd'hui d'ateliers en ligne. C'était uniquement pendant les confinements. Je préfère vraiment le présentiel. Donc, j'en fais uniquement en présentiel, où là, il y a le contact, on bouge, voilà. Mais en ligne, ça marchait aussi très bien, bien sûr. Après, j'avoue que je préfère quand même la présence, voilà, humaine.
Non, je te comprends, mais vraiment, en plus, à plein d'égards, ça m'a beaucoup apporté parce que justement, je pense que j'étais au début de mon basculement sur l'accompagnement en ligne et d'avoir fait cette expérience avec toi sur ce stage à distance, voir tout ce que j'ai reçu, plus
Oui.
d'autres, parce qu'effectivement, c'était une période où tout ça explosait à Zoom, etc., où on était obligé de passer par là. Et de voir à quel point on peut vivre des choses magnifiques. Et tu nous as fait vivre, bon, c'est en groupe, hein, vraiment, alors qu'on était en groupe en plus, et avec cette distance qui pourrait être une barrière si on s'y accroche, en fait, on arrivait à vraiment, comme tu dis, à aller dans des états intérieurs profonds, même avec chacun d'entre nous, chacune, on a vécu des choses très, très importantes et
Oui.
intimes. Et
Oui.
ouais, tu as cette capacité à vraiment. À nous faire nous rencontrer grâce à notre voix. Et je trouve ça vraiment
Exactement.
magique.
Ouais. Parce que moi, j'estime, enfin, je sais que moi-même, j'ai exploré mon propre intérieur grâce à la voix, finalement. D'être sur scène et de chanter dans n'importe quelle condition, que ce soit physique, émotionnelle, psychologique. Allez, je chante dans n'importe quelle condition. Moi, je suis. Dire bon, on est sur un sujet quand même précis là aujourd'hui. Moi j'ai vécu des choses très très lourdes dans l'enfance, dans le sens où j'ai subi des fellations répétées par mon grand-père paternel pendant 3 ans, mais pas de façon régulière, mais surtout à 4 ans, à l'âge de 4 ans, à l'âge de 6 ans, de 7 ans, à 5 ans, je sais pas trop ce qui s'est passé, mais non, il y a eu un trou. Par contre, j'avais déjà des problèmes d'estomac à 5 ans qui étaient inexpliqués selon les médecins. Donc, j'avais des douleurs d'estomac, des brûlures, bon, qui étaient inexpliquées, toutes les scènes sont remontées beaucoup plus tard, puisque c'est un épisode de vie qui a été occulté pour moi. J'étais dans le noir total.
On avait des vies
Seulement,
traumatiques, donc.
oui, exactement, j'étais dans une sorte de sidération, je pense, ça fait. Moi, je dis tout le temps que j'ai dans la tête, j'ai comme une faille, mais quelque chose qui s'est arrêté, comme une grosse sclérose dans la tête. Et mon corps n'a pas menti, dans le sens où j'ai fait à 15 ans une grave anorexie mentale, où je suis descendue à 35 kilos. Donc, j'étais pas loin de mourir quand même. Anorexie très restrictive, où j'étais hospitalisée déjà 2 mois. Et puis, sans trop savoir un peu, voilà, le pourquoi du comment, j'ai pas trop cherché. J'avais une psy à l'époque qui n'était pas super, qui répétait tout à mes parents ce que je disais. Donc, voilà, je préférais pas lui parler. Bon, les années ont passé. Bon, j'ai vécu une adolescence à peu près normale, dans le sens où, voilà, je commençais à tomber amoureuse, etc. Mes règles s'étaient arrêtées, elles sont revenues. Oui, par des petites amourettes que je vivais comme ça. Et je me suis mariée très très tôt. Je me suis mariée à 22 ans avec un homme avec lequel je suis restée 22 ans aussi et que je viens de quitter il y a 3 mois exactement. On vient de signer même il y a 10 jours le divorce. Donc c'est tout frais, tout frais, tout frais, tout frais. Et pendant le mariage, donc bon, j'ai eu la chance d'avoir une fille. Et je dis, je l'ai eu la chance parce que mes règles se sont arrêtées pendant 17 ans ensuite. Donc, une aménorrhée de 17 ans juste suite à l'accouchement, en fait. Donc, j'ai eu une seule fille, mais qui a 20 ans aujourd'hui et qui est juste une lumière, et qui se dirige aussi vers l'hypnose, d'ailleurs. Et ouais, elle va se former à l'hypnose. Elle est déjà dans le Reiki, tout ça. Et donc, j'ai refait une sorte d'anorexie pendant le mariage, avec hospitalisation, avec des tentatives de suicide aussi, mais toujours sans comprendre, donc avec beaucoup de culpabilité, des pourquoi je fais ça, quoi, parce que bah, j'ai un mari qui est plutôt charmant, gentil. Il y avait un problème, je sentais au niveau des relations sexuelles, je ne savais pas trop pourquoi. Je me vidais de mon énergie et surtout après, j'avais des compulsions et j'allais vomir. Surtout après les relations sexuelles. Mais je n'avais pas trop fait le lien, je ne comprenais pas trop pourquoi. Je dis, bon, ça doit être normal, je sais pas. Bon. Toujours est-il que quand on vit quelque chose, je pense, dans l'enfance, on croit que c'est normal, de toute façon. Tout ce qu'on vit, c'est normal. Tout est normal. Donc, on fait de notre vie après une normalité, finalement. Et ce sont les confinements qui m'ont ouvert les yeux, clairement, parce que je me suis dit, ah ouais, il va être là tous les jours avec moi, 24 heures sur 24, mais comment je vais faire? Je me suis sentie d'un coup oppressée, angoissée, ligotée, parce que clairement, là, je me suis dit, il y a un problème, il me viole, en fait. Il y avait voilà. Il y avait du viol, il y avait beaucoup de forçage, tous les jours, il me disait, il faut que tu écrives dans ton agenda. Je pleurais et continuais, il me faisait mal. Agressif, j'ai dit un problème, il y a vraiment un problème. Donc j'ai très très mal vécu les confinements. J'ai été aidée par un ami hypno. Bon voilà, c'était bien pour parler, mais après ça n'a rien trop changé. Et là j'ai pris conscience que ça venait pas peut-être que de moi cette histoire et qu'il fallait que je quitte mon mari pour me libérer et guérir surtout en fait des compulsions alimentaires et tout ça. Parce qu'en 2020, je me suis refait faire toutes mes dents qui étaient extrêmement abîmées. Là, j'avais 24 couronnes à refaire.
Ça, c'est lié au vomissement
Lié au
répétitif.
vomissement, j'avais complètement abîmé les mailles. Je me suis dit bientôt, j'aurais plus du tout de dents parce qu'elles étaient très très fines et elles commençaient à se casser. Donc là, bon, j'avais de la sensibilité dentaire, je ne pouvais plus croquer certaines choses. Donc je suis partie en Hongrie, Budapest, où là c'est le meilleur endroit pour se faire refaire les dents parce que c'est pas cher. Enfin, c'est pas cher. 8 000 euros quand même pour 24 couronnes, mais par rapport à la France, j'en avais pour 20 000 euros en France. Hein, donc. Je dis, je vais aller là-bas et en 7 jours, j'ai vraiment eu très très mal. J'ai très,
J'imagine.
très 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 mal. Et je me suis dit, plus jamais de crise, c'est fini. Eh ben, même si on se dit ça, ça continue quand même. Donc, j'ai, voilà.
Le travail est en cours, quoi, encore.
Le travail est en cours. J'ai réussi à quitter mon mari en 1er septembre. Voilà, je lui ai dit, écoute, c'est fini. Bizarrement et étonnamment, mon corps a réagi parce que mes règles sont revenues quand j'ai pris ma décision. Bon, ça, c'est un truc de fou quand même. Près de
C'est
17
fou.
ans, ah ouais, c'est fou. Comme si c'était un grand oui, quoi. Comme si mon corps me disait, mais oui, vraiment que c'est vraiment ça, quoi. Donc, je me suis vraiment expatriée aussi de la France. Je suis en Belgique. J'ai voulu me déraciner, sortir de mon pays et faire un reset total, quoi. Aujourd'hui, j'ai toujours un lien avec lui qui est compliqué parce qu'il y a toujours ce truc qui traîne de femme soumise, de victime, mais moins qu'avant, mais je dirais de pas vouloir le faire souffrir. Donc, je retourne quand même dans ma maison quand je vais à Paris chaque semaine pour travailler. Le lien avec la maison n'est pas top non plus, puisque bon, bah, c'est très chargé émotionnellement dans cette maison. C'est là où j'ai fait mes tentatives de suicide. Enfin, voilà, un gros, gros passé dans cette maison. Donc, j'ai encore un équilibre à trouver aujourd'hui. Voilà, je suis toujours dans la recherche de qui je suis. Bah, je dirais que je suis plus face à moi-même qu'avec moi-même, on va dire. Voilà. Enfin, je pense que c'est un sujet, et je te remercie vraiment de. Solange, toi, d'initier toutes ces campagnes de parole, en fait, parce que, encore une fois, là, voilà, on est sur la voie, clairement. Si on se met à parler, bah, parler, pour moi, je dirais chanter, c'est comme vomir un peu. Voilà. Parler, c'est plus doux, mais ça fait déjà beaucoup de bien, parce que je suis sûre qu'après ce podcast, je vais sentir un soulagement qui va faire que je n'ai pas besoin d'aller vomir après, quoi. Il y a ce truc-là que, ah bah c'est ça, voilà, on crache le truc, on s'exprime, l'expression évite que ça s'imprime, en fait. Donc, c'est pour ça que la voix, pour moi, c'est fondamental, quoi. Parce que s'il y a quelque chose qui est resté coincé là, évidemment, tout était dans la bouche, pour moi, voilà.
Bien sûr,
Voilà.
forcément.
Donc merci parce qu'il y a tellement, tellement de tabous là-dessus encore aujourd'hui. Et encore, je trouve que ça y est, on commence à voir de plus en plus de vidéos, entendre des témoignages. Donc c'est chouette.
Ouais, c'est tellement important. C'est pour ça qu'il faut continuer encore et encore et encore.
Oui.
Et il y a, c'est vrai que ce lien paradoxal, quelque part, je dirais même, entre la voix que tu as choisie, la voix aussi,
Oui.
que tu as choisie avec la voix, avec tout ce que tu portes, que ce soit quand tu étais chanteuse à l'opéra, quand aujourd'hui, l'accompagnement que tu fais autour de cet outil. Et le fait que, ben justement, tout ce que tu as subi par ton grand-père, c'était tout dans la bouche, comme tu disais. Il y a quelque chose qui m'interpelle vraiment. Comme tu dis, quand tu chantes, tu vomis. En fait, quelque part, c'est comme si tu vomissais. C'est comme si on avait cherché ce que tu as subi. C'est comme un bâillon, quelque part. Mais finalement, c'est comme c'est aussi ce qui fait que tu es compulsivement obligé d'exprimer, quoi, d'une manière ou
Oui,
d'une autre.
oui. Ma psy me dit une chose très juste qui me revient souvent. Elle me dit en fait, vomir pour vous, c'est comme faire pipi. Et donc, on ne peut pas se retenir longtemps. C'est-à-dire, on a envie de faire pipi, on ne va pas dire, ah ben non, à la place, je vais regarder une série pour faire diversion. C'est pas possible. On a envie de faire pipi, on va faire pipi. Et en fait, vomir, pour moi, c'est devenu comme manger, dormir,
C'est
boire.
physiologique, c'est un besoin physiologique.
C'est ça. Et c'est là où je me dis, bon, bah, faut pas que ça dure non plus longtemps, parce que extérieurement, ça ne se voit pas. Ça se voit pas finalement, mais intérieurement, je sais que je me fais du mal
Bien sûr.
et que mon corps, waouh, quoi, il trinque. Hein. Voilà, j'ai mes os qui sont pas dans un bon état. Hein. J'ai des os d'une femme de 70 ans, en fait, j'en ai 46. Ça, ce sont les conséquences de l'aménorrhée. Mais là, mes cycles sont de nouveau réguliers. Donc, oh là là, je me dis, super, je redeviens une femme. Je sens. Et depuis que j'ai quitté mon mari, j'ai pris 3 kilos aussi. Donc, mon corps se détend, mon corps se reprend. Voilà, j'ai fait exprès de laisser la balance aussi chez moi, à Paris, enfin, dans mon ancienne maison, pour pas me peser. Voilà, et ça me libère aussi beaucoup. Voilà, je me suis lancé certains défis comme ça, de ne pas regarder mon corps. J'ai quasiment pas de miroir ici qui fait l'ensemble du corps. Enfin, mais c'est un sacré effort quand même. Hein. C'est un sacré challenge.
Tu dis chez moi à Paris, c'est la maison donc dans laquelle
C'est
tu
la
as
maison dans
vécu avec ton
laquelle
mari.
j'ai vécu pendant 22 ans avec mon ex-mari. Ouais. Ouais.
Est-ce que c'est une maison qu'il occupe aussi?
C'est une maison dans laquelle il est toujours avec ma fille.
Oui.
Et donc, dans laquelle je retourne quasiment chaque semaine dormir pour travailler, parce que je travaille en présentiel à Paris tous les vendredis. J'accompagne beaucoup d'artistes aujourd'hui, entre parenthèses, hein, 90% de clientèle artistique, donc ça c'est chouette pour moi. Mais c'est une maison qu'on va vendre, j'espère vraiment qu'on va la vendre parce que c'est comme si ça me collait encore au corps, c'est comme si ça entretenait encore un lien que j'ai besoin de couper, vraiment.
Oui, tu parles de lien, mais tu parlais aussi tout à l'heure de oui, comme si c'était encore. Il y a une sorte d'emprise qui reste présente, quoi, à ton mari, à ton histoire, à ton passé aussi.
Oui, exactement. Il y a une sorte d'emprise. Bizarrement, ça n'a pas entaché les relations sexuelles en elles-mêmes. Mais mon mari, c'est quelqu'un qui est très porté là-dessus et qui continue encore aujourd'hui de me lancer de faire un peu de harcèlement moral, je dirais. Hein, pour que je pense qu'il a beaucoup de mal, lui, à accepter le fait que je sois partie, il est triste, même si on s'est séparés à l'amiable, hein, ça s'est fait vraiment très intelligemment, il comprend, il m'a laissé partir, il me dit je veux vraiment que tu guérisses et je veux vraiment que tu sois heureuse. Et il continue à me lancer des petits trucs,
Oui.
qui tourne autour du sexuel. Et je ne sais pas si ça c'est bien aussi pour moi. Je sais, j'arrive pas non plus à lui dire stop, arrête. Ou alors, quand je dis stop, arrête, il boude et je culpabilise. Enfin, c'est.
Oui.
Ouais.
C'est une question de positionnement aussi de ta
C'est
part.
ça. C'est une question de positionnement de ma part, exactement. Et pourtant, il y a le non pour moi qui est extrêmement dur à dire. Le non, c'est d'une violence. Voilà. Et pourtant, il faudrait que je le dise. Bah, j'ai déjà dit non en partant, hein.
Bien
C'était une
sûr.
forme de non. Mais il y en a encore. Il y en a encore des non.
Oui.
Et les non, du coup, ça se transforme en colère que je me renvoie à moi et que je vomis parce que
Oui.
je rejette. Voilà, le fait que. Je sais, hein, je sais dans la tête ce que ça veut
Bien
dire.
sûr.
Après, la pratique,
Oui.
c'est plus compliqué, hein. C'est complexe, c'est très
Genre,
complexe.
c'est sûr, c'est complexe pour nous toutes en particulier quand on a vécu cette horreur, puisque comment on est capable de dire non alors que c'est pas quelque chose qu'on nous a appris, et puis
C'est ça.
même si tu en avais, au contraire, tu n'en avais pas conscience, puisque tu as oublié aussi une partie, enfin, tu
Oui.
avais oublié une grande partie, mais je pense que on peut pas dire non tant qu'on n'a pas aussi intégré que quand on dit non, c'est parce qu'on aux autres, c'est qu'on se dit oui à soi, mais vraiment oui, quoi.
C'est ça.
Ouais.
En tout cas,
Mais
la seule fois où j'ai dit non, je me souviens très bien, ça par contre, c'est une scène dont je me souviens très bien. J'avais 6 ans et ma grand-mère m'avait dit, tu vas aller faire le tiercé avec ton grand-père, donc il jouait au tiercé, un jeu voilà, pour gagner des sous avec des chevaux, je ne sais pourquoi. Et je lui ai dit non, je lui ai dit, je ne veux pas y aller. Et j'ai reçu une gifle monumentale. Je me souviens vraiment parce que ma grand-mère n'était pas quelqu'un qui tapait, mais là. Cette fois-là, je me souviens même comment j'étais habillée. Hein, et je me suis dit, là, je pense, en tout cas dans ma tête, ça a été OK, tu n'as pas le droit de dire non. Si tu dis
ouais.
non. Hein. Après, le problème aussi qui s'est passé, c'est que ma grand-mère était complice. Elle savait ce qui se passait. Et mon grand-père lui disait, tu ne dis rien et je te donne de l'argent pour pas que tu parles. Donc voilà, elle est morte d'un cancer du côlon très jeune en disant, si vous saviez, sur sa table de mort. Voilà.
Si vous
Elle
saviez, elle a dit.
a dit, si vous saviez, il y avait ma mère qui s'en souvient très bien, mais elle n'a pas pu dire, elle n'a pas dit, elle n'a pas dit. Voilà. Lui, il est mort du diabète rongé, il n'avait plus de jambes, plus de bras, il était aveugle, enfin bon, voilà, la catastrophe aussi. Donc, et le truc, c'est que il me faisait des fellations et. Je devais certainement voilà, avaler sa semence et ensuite il me gavait de gâteaux et de bonbons. On passait à table, voilà. Donc je ne comprenais pas ce que ça voulait dire manger, en fait. C'était quoi manger? Il dit, je vais te nourrir et après on passait à table et j'étais gavée, gavée de
Mais oui.
gâteaux et de bonbons. Et ma mère était tout le contraire. Ma mère, elle est toujours vivante, mais elle est plutôt orthorexique. Ma mère, elle a des gros problèmes au niveau alimentaire aussi, mais dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'elle, c'est l'obsession du gras. Donc, elle m'a donné ça aussi. Donc, il y a eu un mix des deux.
Oui.
Comment tu veux? Comment tu veux que aujourd'hui, je ne porte pas les conséquences? Ce n'est pas
Mais
possible.
c'est sûr, c'est aussi.
Oui, là, maintenant, aujourd'hui, je suis plus dans la phase. Moi, j'ai accepté ça. Tu vois, je t'en parle librement. Je
Oui.
sais que c'est public, ce podcast. Je
Bien
sais
sûr.
et j'ai aucune pudeur à exposer ça parce que j'ai aucune honte même. J'ai accueilli ça dans mon travail. Hein, ça fait plus de 17 ans que je souffre de ça. Donc, forcément, j'ai accueilli. Je me suis dit, bah, c'est comme ça. Je ne peux pas faire autrement. C'est comme ça. Et peut-être que ça m'évite de m'enorgueillir. Et peut-être que ça me permet d'accueillir des gens qui souffrent aussi, de les aider. Parce que je remercie aujourd'hui mon grand-père. J'arrive à le remercier. Je dis merci. Je reçois des gens qui sont suicidaires. Et je comprends tellement, quoi. Je comprends.
Oui, ça t'a donné une sacrée force.
Mais oui, vraiment. Donc même si ce n'est pas fini, et peut-être que ça finira jamais. Bon, bah, et que je cherche quand même à m'en sortir, parce que j'avoue qu'il y a des fois, je me dis ma santé, j'ai un peu peur. Mais j'ai accueilli ça. Je dis, bon, bah, je fais du mieux que je peux. Je ne peux pas faire mieux que mon mieux, quoi.
Ouais, non mais c'est bravo, vraiment merci de comme tu dis, j'ai aucune honte et mais c'est tu n'as pas à avoir on n'a pas à avoir de honte quelle qu'elle soit, mais c'est vrai que ça fait partie des choses qui nous bâillonnent et
Oui.
qui nous enchaînent hein, malgré nous. Toi, tu as une sacrée force pour être capable de le dire aussi librement. Et moi, je le fais aussi, mais c'est vrai qu'à chaque fois, ça coûte. Personnellement, ça me demande beaucoup d'efforts. Hein, et bon, voilà, c'est de mieux en mieux à force. Et c'est pour ça que c'est si important de continuer, de se répéter. C'est comme un entraînement hein, à dire, et pour les autres, et pour nous aussi. Comme tu disais tout à l'heure, quand tu parles, quand tu n'as plus besoin de te faire vomir, donc il y a plus ces cris, et de moins en moins, c'est une autre façon d'exprimer tout ce qui doit être sorti de ton corps. Et j'ai vraiment beaucoup de gratitude à ce que tu le fasses ici. Et en même temps, moi, je vois aussi cette force que tu as d'être dans l'acceptation, très consciente, très intellectuelle aussi. Je pense que c'est aussi le cas dans ton corps, mais pas complètement, puisqu'effectivement, tu es
Oui.
encore dans ce processus. Et comme tu dis, bah, peut-être que ça va durer toute la vie. Je te souhaite que tu trouves la libération rapidement aussi,
Oui.
parce que en plus, je sens que tu es déjà en train de le faire, quoi.
Oui,
Et
c'est sûr. Oui.
je peux pas m'empêcher de penser aussi dans ma posture de thérapeute. Je fais pas du tout la thérapeute, mais c'est juste une constatation de ce que je vis, ce que j'accompagne aussi dans ma pratique. On voit, toi tu fais l'hypnose, moi je suis avec l'EFT, je travaille aussi avec une technique qui s'appelle l'AIT, et on fait beaucoup en AIT, c'est ce principe de ce lien qui reste actif au niveau énergétique dans l'être tant qu'on n'a pas coupé. Toi tu as vraiment cette conscience. Il y a eu ça, par exemple, par rapport au nom. Tu me parles de la gifle que ta grand-mère t'a donnée, à quel point tu l'as gardée en mémoire. Donc, elle est vraiment ancrée dans tes organes, en fait. Elle est ancrée aussi
Oui.
énergétiquement. Et c'est vrai que nous, on fait vraiment, avec l'AIT, on prend en considération ce lien. Aujourd'hui, je vis comme ça parce qu'il m'est arrivé ça. Et on coupe. Et pour moi, j'ai vu dans tout ce que j'ai vécu, c'est pas terminé aussi, que quand j'ai pu couper tous ces liens énergétiquement, il y a eu plein de choses qui se sont complètement
Ah oui.
transformées. Et ça,
Ah
je
oui.
pense que c'est hyper important de pouvoir avoir cette conscience déjà, et ensuite de
Oui.
couper les liens aussi de façon énergique.
Oui. Ben voilà, peut-être que je ferai
Alimentaire.
appel à toi parce que effectivement, l'EFT, je connais.
Ouais.
J'en pratique beaucoup aussi sur moi, sur les autres, etc. Mais l'AIT, non. Et on m'en a parlé. Oui, c'est vrai, on m'en a parlé.
Je trouve ça très fort, ouais.
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 Ben oui, parce que le corps, comme tu dis, il engramme des mémoires, quoi.
C'est ça.
Et ça va au plus profond de nos cellules. Et même mon corps, moi, il m'a lancé, par exemple, quelque chose de très, très. Quand j'en parle, les gens sont toujours très, très surpris. Mon annulaire gauche. Donc, là où je portais mon alliance de mariée pendant longtemps, il y a à peu près presque 10 ans maintenant, j'ai perdu l'ongle de ce doigt. L'ongle est tombé et il est repoussé tout bizarre. Il est retombé une autre fois, il est repoussé tout bizarre, il est retombé plusieurs fois comme ça.
Wow.
Bon, je ne comprenais pas trop le message du corps là, mais c'était vraiment, j'avais mon alliance hein, et ma bague de fiançailles, les deux bien tenues, nuit et jour. Et puis en 2019, fin 2019, je suis allée dans le désert marocain faire un voyage avec Arnaud Riou, qui est ce grand chaman. Je trouve qu'il est très, voilà, un gars qui a en même temps les pieds sur terre et très spirituel. Et c'était un voyage extrêmement puissant.
Ouais.
Le désert, pour moi, c'était, voilà, il fallait que j'y aille. Je sentais que l'appel du désert, voilà. Et j'ai eu la chance de l'avoir face à face avec moi, parce qu'on était un grand groupe de 40 quand même, et il voulait qu'on se voie. Il m'a dit, enlève ton alliance. Donc j'ai enlevé mes deux bagues, alliance et fiançailles, et d'ailleurs je les ai plus remises après. Il a mis ses doigts, sans savoir hein, ce que je vivais, il a mis ses doigts autour. Il m'a dit, j'ai des nausées, j'ai envie de vomir. Il m'a dit, je sais pas ce que tu es en train de vivre actuellement avec ton mari, mais et je ne veux pas te donner de conseils, mais je serai toi, j'arrêterai les relations sexuelles pendant quelques temps, juste pour voir ce que ça donne. Ok, donc c'est ce que j'ai fait. En rentrant, c'était difficile pour moi de dire à mon mari, on arrête quelques mois, parce que tout de suite, mais combien de temps, voilà, il voulait savoir. Donc j'ai dit, écoute, on se donne jusqu'au mois de juin, on était fin décembre, jusqu'au mois de juin, on verra bien. Ça n'a rien vraiment trop changé. L'ongle, aujourd'hui, il est toujours mal en point, mais enfin, il est là. Mais par rapport aux autres, on voit qu'il peut naître, quoi. Et en septembre, il a voulu recommencer, et puis ça a été l'horreur pour moi, c'était l'horreur. Donc j'ai dit, écoute, on se donne plus de, si tu veux bien, on se donne plus du tout de limites dans le temps, parce que moi, ça m'aide pas. J'ai cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, là. Et là, il a lâché. Donc pendant 2 ans, on n'a pas eu de relation sexuelle, et puis bah, on s'est séparés là en septembre. C'était la fin déjà. Je pense qu'Arnaud Riou sentait, et c'est quand même fou, que l'ongle, déjà comme, comme si le corps me disait, tu étouffes, il y a un problème, tu es en train de mourir, quoi.
Ouais.
L'ongle est mort plusieurs fois, il repoussait mes mal, il retombait, et c'est, je trouve que le corps, mais il est fantastique. Et moi, je l'ai longtemps considéré comme une tuyauterie, en fait. Et après, je me suis dit, mais il a une immense sagesse, le corps. Il sait tout, il se rappelle de tout. L'aménorrhée aussi, c'est juste la perte de joie. Enfin, je sais pas, quand tu n'as plus de règles, mais je me sentais une desséchée, morte dans le ventre. Je me disais toujours, j'ai l'impression d'être morte dans le bas-ventre. Vraiment. Donc,
Ouais.
ouais, c'est. Le corps est très puissant finalement.
C'est ouais. J'ai eu plein de frissons en t'écoutant, toute
Ouais,
ce
je suis en train
partage.
de me ouais.
Mais cette image que tu as aussi quand tu dis mon corps, je le considérais comme une tuyauterie, ça me fait tilt en fait par rapport à cette maladie que tu portes de la boulimie,
Oui.
de vomitive, parce que quelque part, tu le considères comme une tuyauterie, mais en fait, il se comporte ainsi, quoi, en quelque part.
Oui, c'est vrai.
Ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, c'est juste un tuyau et ça passe dans tous
C'est
les
ça.
sens.
Ouais.
Des fois, c'est bouché, puis pouf, ça explose comme si c'était
Mais c'est ça.
trop plein.
Et parfois, le truc, c'est que quand je retourne dans ma maison, je suis très attentive à mes ressentis et j'ai des nausées et de l'aérophagie à chaque fois.
Ouais.
Mais au point où ça peut me faire vomir, là, involontairement.
Mmh.
Donc cette maison,
Ouais.
voilà, je cherche, c'est pour ça que je cherche à dormir un peu ailleurs, si je peux avoir des pieds à terre. Voilà, j'en trouve un peu. Quoi. Surtout là, je vais rester une semaine, j'ai trouvé d'autres logements possibles. Mais physiquement, le corps me dit quelque chose, quoi. Et je m'approche du RER, même, je sens, je descends, je sens. Et là, ça y est. J'ai des nausées, je vais remonter.
Ouais.
Et parfois, je mange et je ne peux pas m'empêcher de vomir. Là, c'est vraiment pas volontaire.
Ouais, d'accord. Ouais.
Donc,
Oui, il y a les deux aspects. Des fois,
Les deux.
quand on parle, quand tu dis que tu es en crise, ça peut être aussi bien parce que toi, tu vas volontairement pouvoir sortir quelque chose
Oui,
qui est trop lourd,
oui.
ou parfois ça se fait tout seul, quoi, en fait.
Oui, bah c'est plus souvent volontaire quand même. Hein.
D'accord.
C'est que quand j'arrive dans cette maison, là, c'est à chaque fois. Donc je le sais maintenant.
Ouais.
Donc je fais attention, je mange lentement. Puis quand il y a ma fille, etc. Parfois, je n'ai pas besoin maintenant de vomir ou quoi que ce soit. Surtout quoi. S'il n'y a rien au niveau alimentaire, je ne vais pas faire de crise. Hein. Et puis si, par exemple, je sors, je vois des amis, là, je fais exprès de sortir beaucoup, d'aller à des concerts, des spectacles. Et l'autre jour, j'étais à un opéra. Je me disais, c'est quand même bien de se nourrir de ça.
C'est ça.
C'est une belle nourriture, ça. Et j'ai pas besoin. Après, je rentre, je dors. Et je me rends compte à quel point j'ai beaucoup d'énergie le lendemain, beaucoup plus que si je vomis la soirée. Bon, voilà. Donc, le corps aussi, le pauvre.
Et tu te remplis autrement, enfin tu te remplis
Oui.
vraiment de façon
Oui.
choisie et
C'est ça.
avec goût en fait, avec vie quoi.
Exactement. Et puis là, je me sens mieux, l'estime de moi est mieux. Enfin, voilà, il y a plein de choses.
Ouais.
Ouais.
Ouais, tu nous as parlé de ta fille, tu vas nous parler davantage, si
Oui.
tu veux bien, de ta maternité. Je voulais aussi te demander, est-ce que tu peux nous décrire pour toi, est-ce que tu fais un lien entre cette situation maritale contrainte, forcée, à laquelle tu te sentais vraiment emprisonnée et victime quelque part, et ton passé, avec ton grand-père qui t'imposait ses fellations, etc.
Oui, je fais un lien parce que ah, c'est une bonne question. Mais forcément, je sentais que pendant les relations sexuelles avec mon mari, il y avait un problème. Hein. Il y avait une dissociation. Je me regardais faire souvent. Je me dissociais, je sortais de moi, je dis bon allez, ça va passer, je sens rien, je m'anesthésiais en fait. Surtout sur la fin du mariage, hein, évidemment. Mais je m'auto-forçais et je m'auto-violais aussi. Que je me disais, vas-y, il faut, c'est bien pour lui. Toi, c'est pas grave, tu sais faire, tu es une championne de la dissociation. Donc c'est facile, je me sortais de mon corps, hop, et puis dès que je revenais dans mon corps, là, c'est là où. Pitié de moi, dégoût de moi-même, c'est dégoût. En fait, puis les vomissements, je disais, en fait, les vomissements, c'est un dégoût de soi, hein, c'est pas un dégoût de l'autre. Longtemps, mon mari s'est senti accusé par ça. Je dis, c'est pas toi que je vomis. C'est moi, c'est mon propre rejet. C'est mon rejet de moi. Et je pense que oui, avec mon grand-père, bien sûr, c'était pareil. Je pense qu'en tant que petite fille, moi, déjà, j'ai une scène très, très forte. C'est dans la salle de bain où je voyais son sexe comme une baguette de pain, puisqu'à l'âge de 4 ans, ben, tout est grand. Donc vraiment, vraiment très, très grand. Et dans la bouche, avec ses yeux au-dessus, son regard. Un regard que je ne connaissais pas autrement que dans ces situations-là, puisque c'est un regard d'un homme qui jouit. Et la petite fille sidérée, et certainement que je me suis mise au bout d'un moment à côté de moi, parce que ça devait être trop incompréhensible, même si elle est extrêmement gentille et que j'étais la petite fille adorée, bien sûr. Ben, j'aurais eu envie d'aller jouer à mes poupées, je pense, avec mes poupées
Bien
plutôt
sûr.
que. Voilà, mais je me souviens très bien de ça, de cette scène-là, avec le lavabo derrière, après la laisse laver.
Parce que par ailleurs, ton grand-père était quelqu'un de très gentil avec toi.
Ah oui,
Oui.
j'étais la préférée. J'avais un frère de 18 mois plus jeune qu'il n'aimait pas du tout. Vraiment, lui, celui-là, non, mais alors, elle est tellement gentille. Alors ça, c'est un mot gentil aussi, ça, c'est un mot. Là, mon mari, des fois, quand il me disait, t'es gentille, tu sais, ce mot-là, j'ai du mal avec ça. J'ai du mal avec gentil parce que gentil, pour moi, voilà, pour moi, hein, c'est vraiment le truc de femme qui dit oui tout le
C'est
temps.
ça.
Et ouais, c'est pas la vraie, quoi. C'est pas vrai, mais on dit oui, on est gentil. Et oui, il est extrêmement gentil. Il était gardien de prison, c'était son métier. Sacré bourreau, d'ailleurs. Et puis. Et je me demande si mon frère n'a pas vu des scènes parce qu'il le détestait et parce que mon frère, quand j'ai fait ma première anorexie à l'âge de 15 ans, il a fui, il a disparu du paysage et depuis on a très très peu d'échanges. Mais mon frère, ma maladie, ça l'a mis à l'écart de moi. Bon, il n'a jamais fait de travail personnellement. Et puis ça a été violent quand je lui ai annoncé ça. Ça a été très violent pour lui aussi. Comment tu peux dire ça? Mon père aussi, qui était son fils, qui est toujours vivant, a encore du mal aujourd'hui. D'ailleurs, il ne veut pas entendre parler, hein, que son père ait pu faire une chose pareille.
T'as pas été soutenue par tes proches.
Pas par mon père, non, par ma mère, oui. Vraiment. Les femmes, oui. Bizarrement, les femmes m'ont soutenue. Et mon petit frère aussi, le plus jeune, parce que j'en ai un deuxième plus jeune. Ma mère, les bras lui en sont tombés parce qu'elle s'est rappelé plein de choses après. Voilà, elle a compris que oui, c'était passé des choses. Mais mon père, il s'est fermé tout de suite, s'est mis en colère et ça m'a fait une double peine en fait. Ça
M'étonnes.
m'a fait une double punition, pas de reconnaissance possible. C'est dommage quoi. Donc, mon père, il est là sans être là en fait. Déjà qu'il était un petit peu père absent et jamais vraiment présent pour moi, alors ça, c'est encore plus,
Oui.
encore plus séparé, quoi.
Oui, ça c'est une horreur terrible pour beaucoup de victimes quand elles osent enfin exprimer et dire et qu'elles ne soient pas reçues, c'est terrible,
C'est
c'est
ça.
terrible. Ouais.
Ouais.
C'est tellement, je suis bouleversée par tout
Mais
ce que
oui.
tu viens de partager.
Ben
J'avais plein
là,
de questions en t'écoutant.
et tu sais plus. Bah, je sais pas, tu vois les questions, oui, parce que bon, bah, c'est vrai que j'exprime ma vérité à moi, puis le fait que je tente d'en faire quelque chose aujourd'hui,
Ouais, c'est magnifique.
pour moi d'abord, mais aussi pour les autres, parce que j'ai un métier où j'aide la personne. J'ai besoin d'être vraie aujourd'hui aussi. J'ai besoin d'être vraie, j'ai besoin d'arrêter de tricher. La scène, c'était une triche aussi. C'était bien, c'était une thérapie, mais c'était aussi une triche parce qu'on mettait un costume, parce que le maquillage, parce que
Ouais, une autre manière de se dissocier.
c'est ça exactement. Je peux être triste et en colère 2 minutes avant, je m'habille, je me maquille, allez hop, faut surtout pas montrer ça sur scène, faut bien chanter et on fait bien son métier et ça fait du bien, c'est comme une espèce de jouissance. Et oui, il y a quelque chose d'intéressant par rapport à la jouissance d'ailleurs, c'est cette je vais aller un petit peu plus loin, mais je pense aussi qu'en tant que victime d'inceste, on passe par là, malheureusement, et ça peut être dur à entendre, mais c'est qu'on doit passer par une espèce d'excitation soi-même. Quand on est sous l'emprise de l'autre, parce que j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en tout cas durant ma vie de mariée, et encore aujourd'hui, donc, j'ai l'impression que je vomis ma propre excitation. Parce que c'est pas possible, c'est
Comme si tu pouvais pas
insoutenable.
l'intégrer en fait, d'être excité,
Ben
c'est
non,
que
mon
t'as pas le
ben,
droit, quoi.
j'ai pas le droit d'être excité. J'ai pas le droit. Je veux dire, j'ai pas le droit d'être excité par quelque chose que je ne veux pas. Je refuse ça.
C'est une
Et
horreur, ce
pourtant,
paradoxe.
le corps s'excite. Et pourtant, il y a de l'excitation. Mais c'est affreux. Donc, en fait, un mari que j'ai eu qui a cherché sans cesse à ce que je sois excitée, entretenait ça. Donc, mon mari, il était là pour à la fois m'interdire, parce qu'il ne fallait pas que je vomisse devant lui, interdiction, et à la fois l'entretien de l'inceste, toujours. Donc, et je ne pouvais pas, en étant mariée, me sortir de là, de toute façon.
Oui, c'est ça, le lien, il est clair. Il est clair,
Et
c'est
il est
ça.
clair, il est clair. Donc, je sais qu'en étant partie, déjà, c'est un énorme pas. Mais pourtant, aujourd'hui, je me dis, tiens, voilà, bizarrement, là, j'ai ressenti l'excitation et je n'ai pas le droit. Il y a toujours ce truc-là. Je n'ai pas le droit d'être excitée. Je n'ai pas le droit de vraiment tomber amoureuse. Il faut que je me protège. Je me protège, je me blinde là. Vraiment, vraiment, vraiment. Mais si, j'ai remarqué aussi que si je ne vomis pas pour des raisons, parce que voilà, comme l'autre jour, je suis allée à l'opéra, je n'ai pas vomi, etc., la journée, voilà, bref. Eh bien, il y a de la masturbation qui arrive. Il y a le lien qui est là, c'est fou. C'est si je ne me masturbe pas, je ne dors pas.
Ah oui.
Ça, c'est fou. Et je me suis dit, quand même, c'est très, très lié, quoi. Il y a vraiment un truc.
Mais c'est terrible parce que toutes les solutions pour t'apaiser, elles ne te conviennent pas en fait. Et il y a toujours cette notion de culpabilité. Je brave un interdit que je me pose, mais malgré toi en fait, quelque part.
Oui,
Parce que c'est
ben oui.
toujours lié à tout ce que tout
Mais c'est
remonte
ça.
à ce qu'on t'a imposé de faire alors que tu n'étais qu'une petite fille et que tu devais faire tout à fait autre chose, comme tu disais, jouer aux poupées, plutôt que d'être dans cette
C'est ça.
situation, dans la salle de bain avec ton grand-père.
C'est ça. Du coup, je suis un peu perdue au niveau de mes propres désirs. Du coup,
Absolument, oui, bien
qu'est-ce que
sûr.
je veux? Mes désirs et mes besoins. Je suis perdue dans les deux.
Qu'est-ce que j'ai le droit de vivre en fait aussi?
Oui, qu'est-ce que j'ai le droit de vivre aussi?
Cette
Ouais.
notion, merci beaucoup de mettre ça en avant parce que cette notion, on en parle, j'espère, de plus en plus, en tout cas, là, puisque je suis dans un réseau particulier, évidemment, je vois passer des choses sur Instagram, sur Facebook, enfin, surtout Instagram, par rapport au plaisir et à l'excitation traumatique. C'est vrai que c'est ça, c'est quelque chose qui est difficile à aborder parce que ça donne forcément ça a une dimension de honte,
Mais c'est
aussi de culpabilité, mais ça renvoie vraiment à cette culpabilité que l'on porte toute notre vie. Effectivement, le corps, comme tu dis, a réagi forcément,
Oui.
alors qu'on était sous cette emprise, ces horreurs-là. Et forcément, donc, ça s'est imprimé. Et l'association entre plaisir et interdit, et culpabilité et honte, ça nous étouffe totalement.
C'est ça. Et tout est mélangé.
Ouais.
Et ce qui fait que, même j'en parlais à ma psy l'autre jour, chaque source d'émotion, que ce soit même la joie, hein, ou la tristesse, la peur, la colère, ou le dégoût, ou même la surprise, chaque source d'émotion me fait vomir en fait. Je ne sais plus comment gérer l'émotion, l'émotionnel. C'est tellement tout, c'est tellement à côté de soi en fait. Et je pense que c'est clairement dû à une faille. Il y a une faille dans le cerveau, enfin surtout à l'âge de 4 ans. J'imagine une petite fille de 4 ans. Mais comment tu veux qu'un enfant grandisse normalement avec ça, aussi jeune? 4 ans, 6 ans, 7 ans. Et après, ça s'est arrêté, je ne sais pas pourquoi, mais il a fait un diabète un peu plus important. Il était vraiment pas bien. Bon, puis j'ai eu la naissance d'un autre frère, donc peut-être que voilà.
Non, mais
Mais ça fait un trou dans le cerveau.
oui, c'est dramatique, c'est tragique, c'est là où
Ben
on se
oui.
construit tout, où on a notre carte du monde qui se
Exactement.
construit avec cette donne-là. Et je pense que ça, c'est comme tu dis, voilà, c'est indéniable, ce trou dans le cerveau. Et en plus, t'as pas eu, je pense que si tu avais eu peut-être une compensation par ailleurs de quelqu'un qui t'aurait accueilli et qui t'aurait pu te. Je sais pas, même sans savoir forcément ce qui t'arrivait, mais est-ce que tu as eu quand même dans ton enfance des béquilles émotionnelles, des personnes avec qui tu pouvais te sentir vraiment en confiance?
Quasiment pas, parce qu'à la maison, mes parents se déchiraient. J'avais peur que mon père tue ma mère. Ils ont divorcé pareil que moi, au bout de 22 ans de mariage. Ma mère, elle avait mon âge. Enfin bref, schéma répétitif peut-être, mais chez moi, c'était une insécurité permanente. Je ne dormais pas. J'étais en haut de l'escalier pour écouter ce qui se passait en bas tous les soirs jusqu'à minuit. Ma mère ne l'a jamais su, je lui ai dit plus tard. Donc, je n'avais pas de sécurité chez moi. J'avais pas de. Moi, j'avais des copines d'école, mais je ne me souviens pas d'adultes qui soient réconfortants. Bizarrement, étonnamment, ma grand-mère, qui même s'il était complice, elle m'aimait énormément, et ça, je le sentais. Je sentais qu'elle ne pouvait pas faire autrement que se taire et qu'elle a... bah, elle est morte d'un cancer du côlon, ce qui veut dire beaucoup aussi, hein, la pourriture, les choses pas dites et tout. Mais ma grand-mère était quand même chouette, mais elle me gavait de gâteaux. Il y avait ce truc-là. Mange, je mange pour que je me sente aimée. Ou, voilà.
Ouais, il y a ce mélange qui est terrible. J'ai
Ouais.
vécu la même chose au niveau de ces mélanges des émotions, et d'un côté, moi, je pense que c'est ce qui a fondé aussi un socle de résilience fort chez moi, de foi
Oui.
en la vie. C'est l'amour que j'ai toujours senti de mes parents. Même mon père,
Ah
c'était
ouais.
comme ça que ça a construit. Ça s'est construit, en fait. Pour moi, c'était de l'amour, hein. Vraiment, c'était de l'amour, l'inceste
Ah
qui
oui.
m'imposait
Bah oui.
longtemps. Donc après, quand tu grandis, quand tu deviens adulte, quand tu deviens une femme pour les relations, les rapports intimes et pour les relations à l'amour, c'est difficile. Mais au
Bien
moins,
sûr.
ça m'a donné quand même cette foi. En l'amour, quoi, quelque part, il y a quelque chose de fort qui s'est construit.
Wow.
Mais quand même, il y a ce paradoxe terrible quand tu associes l'amour et ce que tu dis, t'avais l'amour de ta grand-mère, mais en même temps, elle était complice.
Ouais.
Mais ça te donne aussi l'ouverture du cœur de comprendre qu'elle ne pouvait pas faire autrement, sans doute.
C'est ça.
Mais c'est quand même compliqué ensuite
Oui, oui.
de vivre
Oui.
correctement, quoi.
Complètement.
Toutes
C'est
les
ça.
émotions, même les positives, finalement, celles qui sont
Mais
censées
oui.
être positives.
Exactement.
Ouais.
On ne sait plus. On ne sait plus comment gérer une émotion, en fait.
Ouais, c'est tout à reconstruire en fait.
Ouais.
Et ce qu'il y a de formidable, c'est que tu sois capable quand même d'accompagner très très bien les autres
Et
avec les
oui.
outils. Mais
Ouais.
on est souvent, comme on dit, les cordonniers sont les plus mal chaussés.
Voilà. Voilà, on est
Mais
souvent bon pour les autres, après pour soi.
je pense que ça nous donne quand même un beau miroir et surtout une très belle confiance en soi, enfin, une
Mais ça, c'est
construction de
clair.
l'estime de soi, de voir qu'on peut apporter aux autres, même si
Ouais,
on
et
n'arrive pas
vraiment,
à se l'apporter à soi.
quand on me dit on a besoin de toi, Anne-Sophie, je me dis waouh, super, reste là, reste dans le monde.
Et oui.
Voilà, parce qu'il y a des périodes où je dis non, j'en ai marre, quoi, vraiment. Mais c'est le corps aussi qui est fatigué, hein. Après, non, non, je suis à ma place là. Vraiment, professionnellement, c'est juste une bénédiction, c'est un plaisir. C'est, ouais, comme tu dis, ça nous remplit de confiance, d'estime, d'amour pour soi, là, vraiment. Ouais.
Ouais.
Heureusement qu'il y a ça.
Et alors, du coup, ton rôle de maman dans tout ça, comment est-ce que ça s'est passé?
Alors.
Comment ça se
Une
passe
grosse...
aujourd'hui?
Oui, bah déjà une grossesse qui a été formidable dans le sens où c'était quasiment que 7 mois et demi, parce qu'elle est née au bout de 7 mois et demi, mais 7 mois et demi d'abstraction totale au niveau de mon rapport au corps, donc nourriture, anorexie zéro là, hein,
Ah
boulimie
ouais.
zéro, hein. Rien du tout, je savais que j'avais un petit être à nourrir peut-être, je sais pas, mais en tout cas à ce niveau-là, un apaisement. Donc, plus du tout de troubles alimentaires pendant cette grossesse. Beaucoup de nausées quand même. Et puis, j'ai pu chanter, je ne pouvais plus chanter au bout de 5 mois parce que j'avais trop de contractions. Donc, tout ce qui était source de vibration me donnait des contractions. Donc, après, voilà, elle est née un peu trop tôt. C'était une petite fille très angoissée, très, 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 très angoissée. Elle n'a pas souri. Elle n'a pas souri pendant plusieurs mois jusqu'à l'âge de 9 mois. Elle était avec les mains tout le temps comme ça, crispée, les doigts crispés, les yeux grands ouverts tout le temps comme, voilà, et peur de tout. Une petite fille qui a, après, qui s'est apaisée. Elle a quand même son papa, donc mon ex-mari était vraiment fabuleux, 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 une présence. Pas du tout comme le mien. Hein. Il était très présent, très doux, très. Il apportait des heures et des heures et des heures. Ah, c'est un super papa, quoi. Sa famille à lui, moi, j'admire parce qu'ils sont tous très, très, très intelligents dans le rapport humain, je trouve. Vraiment, ils ont quelque chose. Donc, ça, c'était un cadeau pour moi aussi. Et puis, aujourd'hui, c'est une jeune femme de 20 ans que j'ai permis de se libérer aussi en partant de la maison. parce qu'elle faisait beaucoup de crises d'angoisse, elle est beaucoup collée à moi, maman, maman, maman. C'est elle qui m'a découvert à 5 ans et 6 ans, les deux fois quand j'ai fait mes tentatives de suicide. C'est elle qui m'a vue en premier, et pourtant, après la première, je lui ai dit, je ne recommencerai plus, et j'ai recommencé. Donc, elle a perdu ma confiance, donc elle avait peur, elle voulait tout le temps me surveiller. À l'école, elle perdait la concentration, elle avait peur que, voilà, de plus me voir le soir. Donc, on l'a fait faire de l'hypnose. Et étonnamment, dès la première séance d'hypnose, quand elle avait 6 ou 7 ans, je crois, elle a vomi toute une journée. Et j'étais toute seule à la maison. Mon mari n'était pas là. Et je me souviens avoir nettoyé ses glaires. Elle avait que des glaires parce qu'elle n'avait rien dans le ventre. Mais elle vomissait comme s'il y avait aussi voilà, une interdépendance, je sais pas, un truc, une imitation sans le vouloir. Elle n'a jamais su que je me faisais vomir. Ou alors je lui en parlais au passé un peu. Là encore aujourd'hui, elle ne sait pas. Je n'ai pas trop envie de lui dire en fait. Je lui dis que j'ai encore des troubles alimentaires, mais je ne rentre pas dans les détails. Elle s'est libérée, là, ça lui fait vraiment du bien que je sois partie, devenue une petite jeune femme, vraiment. C'est une jeune fille avec qui j'ai beaucoup parlé, en fait, de moi, de elle sait tout au niveau de mon passé. Elle m'a encouragée à quitter son père. C'est elle la première qui m'a dit à 3 ans, maman, tu peux pas rester avec papa, c'est pas possible. Elle m'a dit, maman, je vois deux mamans à la maison, une quand papa est là et une quand papa n'est pas là.
Mais
Et
ça
elle
doit
me
être
dit,
dur.
ça m'énerve quand je te vois avec lui parce que c'est pas toi-même. T'es pas toi. Donc, c'est une jeune femme intelligente qui
C'est
ressent
clair.
beaucoup. Ouais. Elle
Quelle
me lançait des
maturité.
regards. Ah oui, elle me lançait des regards, mais ça l'énervait quand je. Parce que j'ai cette force de dissociation ou de faire semblant, de tricher. Je suis une comédienne, moi, en fait. Hein. Enfin, je ne suis pas une artiste pour rien, mais là, même dans la vraie vie, en fait, je peux tricher facilement. Je peux. Et c'est ce que je faisais avec mon mari à la fin. Et il partait, j'étais fatiguée après. Je dis, qu'est-ce que. Mais oui, j'étais juste pas moi, quoi. Et après, je venais lui parler à ma fille. Elle me dit, ben voilà, ben là, maman, tu vois, t'es pas heureuse, quoi. Je le vois bien, t'es pas heureuse. Donc, elle m'a poussée à partir, ce qui était pour moi un poids en moins, hein, parce que souvent, les enfants, enfin, on reste pour les enfants, mais là, en l'occurrence, non. Tous les jours, j'avais des petits mots. Allez, maman, courage, vas-y. 3 ans. Voilà, il a fallu 3 ans. Quand le moment est venu, évidemment, elle était moins bien, là, du coup, au mois de septembre, elle a réalisé que finalement, je partais vraiment. Et là, elle m'a dit récemment, je ne vois pas ça du tout comme un échec, au contraire, je vous sens vraiment mieux tous les deux. Donc voilà, elle, ça lui permet de s'envoler.
Oui, voilà, oui, c'est ça, comme tu dis. Elle a plus, maintenant que vous êtes chacun, en tout cas, toi, elle te sent plus libre, elle a plus à te
Oui,
surveiller.
non, c'est ça.
Est-ce que c'est pour ça que tu disais je veux pas trop lui dire,
Ouais,
t'as
parce
peur
que
qu'elle s'inquiète encore, toi?
j'étais très surveillée. J'étais, bah, les tentatives de suicide, même mon ex-mari, je veux dire, il est tombé, il a fait des calculs rénaux, surtout la deuxième fois, parce que la deuxième fois, vu que la première, ça n'a pas marché, la deuxième fois, j'ai mis le paquet là sur les médicaments et j'étais 3 jours dans le coma. Hein. Donc, j'ai failli y passer. Lui, ça l'a rendu malade et donc, ils étaient forcément, ils ne voulaient plus me laisser tout seul à la maison. Et ma fille, elle laissait toujours toutes ses portes ouvertes. Il fallait qu'elle me regarde tout le temps. Donc moi, je me sentais traquée, ce qui ne m'aidait pas non plus. Parce que je me sentais encore dans une prison. Et puis là, oui, ça, c'est pour ça qu'effectivement, et en reparlant à mon mari de fait que je vomissais il y a 2, 3 ans, hein, il m'a dit, oh, d'accord. Et là, je lui ai dit, écoute, je ne veux pas que tu me surveilles, quoi. Je veux pas que tu me surveilles parce que. J'ai plus l'idée de me suicider, ça c'est fini, c'est hors de question. J'ai plus d'idée suicidaire hein, du tout aujourd'hui, mais je dis, je ne veux pas qu'on me surveille, je veux pas. Donc j'ai effectivement, comme ma fille est là, je vais pas lui faire peur avec ça encore. Surtout qu'elle a très peur de vomir, bizarrement, elle a cette phobie de vomir. Donc bon, si on rentre là-dedans,
Comme quoi, même si elle ne
ouais.
savait pas plus petite, ça s'est développé
C'est ça.
comme quelque chose de traumatique en fait pour elle.
Oui, je lui dirai certainement un jour, parce que c'est la seule chose que je n'ai pas dit de ça, vu que c'est encore d'actualité et que je ne veux pas qu'elle ait peur ou quoi que ce soit, mais je lui dirai un jour, peut-être quand elle aura quitté la maison, parce que là, elle est en bonne voie pour, elle a un petit copain depuis 2 ans maintenant, elle a un rapport très sain à la sexualité et elle a trouvé d'ailleurs un homme qui respecte vraiment la femme, qui est très, très doux. qui pensent pas qu'au sexe, voilà, à trouver quelqu'un de...
Oui, mais du coup, bon, bah, c'est vrai que ce podcast, il n'a pas non plus une portée internationale. Je le
Non?
souhaite de se déployer un jour.
Oui, je te souhaite
Mais
aussi.
bon, vu que peut-être tu partageras éventuellement cet épisode, t'as
Oui.
pas... qu'est-ce qui se passe si ta fille l'entend?
Ben, peut-être que justement, c'est bien qu'elle l'entende comme ça. Parce que c'est indirect. Elle entend que je ne veux pas qu'elle ait peur. Et puis tant pis, c'est pas grave. Enfin, je veux dire, tant pis, ça y est. Peut-être que ça va m'aider moi aussi et nous rapprocher. C'est une
Je le
bonne question que
souhaite.
tu me poses là, mais vraiment, je souhaite ça en fait. Je souhaite très bien, oui, ça va être écouté. Non, non, c'est OK pour moi. C'est OK parce que là, je veux vraiment me libérer de tout maintenant. Je ne suis pas partie pour rien, juste pour vivre ma petite vie tranquille en Belgique. Hein. Je suis partie pour guérir, quoi. Je veux guérir. Je veux trouver l'issue pour guérir. Et je sais que je peux le faire d'ailleurs au début, là. C'était très bien. Et puis après, ça a un peu dérivé. Donc voilà, je sais que je vais y arriver.
Ouais. Là, je te souhaite vraiment pleinement.
Merci.
Tu vois, cette situation-là, j'ai vécu la même il y a quelques... Ben là, je suis encore en plein dedans parce que, tu sais, comme tu le sais, j'étais en vidéo avec Thibaut InShape. Donc, ça a
Oui,
une portée de
oui,
fou quand même. Hein.
oui,
Là,
oui.
on est à plus de 600 000
Ah oui.
spectateurs, hein, je ne sais pas comment on dit,
C'est
vu.
ça.
Vu. Et c'est un public quand même jeune, ado, même pré-ado, même des enfants le suivent.
Wow.
Non, mais ce que je veux dire, c'est par rapport à ta situation et la mienne, qui sont différentes mais similaires dans le sens où moi, c'est pareil, mes enfants, elles ont toujours su, mes trois filles, j'en ai trois, elles ont toujours, enfin, j'aurais toujours plus ou moins dit, je ne suis pas à leur dire tous les jours, maman, elle a vécu des trucs terribles, mais
Oui.
je voulais pas, enfin, voilà, c'était quelque chose qui est dans l'air, et notamment pour ma plus grande, puisqu'elle a quand même 11 ans et demi, elle va avoir 12 ans dans quelques jours. Et en fait, j'avais cette inquiétude, voire presque angoisse, parce qu'elles ne savent pas clairement que j'ai vécu l'inceste. Elle ne le savait pas, jusqu'à hier, la grande en tout cas. Parce que ça a été l'occasion, sachant que ça allait avoir cette portée. Moi, j'avais tout à fait conscience, et c'était un des petits freins qui aurait pu m'empêcher de faire cette interview, mais je l'ai dépassé parce que moi, je suis dans cette position de, justement, de sensibiliser à fond, à fond, à fond
Oui.
sur le sujet de l'inceste. Et donc, je me suis dit, est-ce que quelqu'un ne va pas, elle n'a pas accès au réseau, enfin, on lui donne, elle a une tablette et tout ça, mais c'est vraiment sous surveillance, on ne veut pas,
Oui, bien sûr.
voilà, il y a plein de, c'est très, très, très balisé, elle n'a pas de téléphone, par contre, elle est au collège maintenant, hein, donc,
Oui.
voilà, et puis même, je pense qu'en primaire, c'est susceptible aussi d'être vu de toute façon par les enfants, puisqu'il a vraiment
C'est
une
sûr.
portée, voilà. Et donc,
Oui.
pour moi, c'était nécessaire que ce soit moi qui lui parle et pas quelqu'un qui vient lui dire, dis donc, ta mère, tu te rends compte ce qu'elle a vécu? Donc, ça m'a boosté aussi, même si ça faisait des années que je voulais lui en parler, mais bon, voilà, son papa n'était pas forcément d'accord, pensait qu'elle était trop jeune et tout. Là, pour moi, c'était nécessaire. Je voulais que ce soit moi qui lui dise et pas quelqu'un dans la cour, qu'elle soit préparée aussi, si on avait des questions, qu'elle sache aussi, maman, papa, on est tous là pour t'entendre si quelqu'un te dit quelque chose. Mais ça a été vraiment, tu vois, ça a été un accélérateur. Et
Ah
donc,
oui.
hier, je lui ai dit, voilà, maman, elle a vécu l'inceste. Voilà ce que c'est
Wow.
l'inceste.
Hier, ouais, bah dis donc,
Ouais, ça
bravo.
date d'hier.
Ouf,
Mais tu vois,
wow.
ce que tu me dis par rapport à ta fille, ça a vraiment écho avec moi. Parce que
Ouais,
c'est...
complètement.
Elle est plus grande, mais je comprends aussi à quel point ça doit être douloureux pour toi. Parce qu'il y a eu toute
Oui.
cette... C'est aussi une sorte d'emprise, finalement, aussi, de la part
Ben oui,
de...
bien sûr.
T'es bloqué dans cette situation où aussi quelque part je sens que tu pouvais pas partir si vite. Tu dis 3 ans parce que c'était comme une sorte de, peut-être que je me trompe hein, mais il y avait peut-être un bénéfice secondaire comme on dit en thérapie hein, caché
Oui.
à être dans cette situation parce que peut-être tu n'avais pas assez confiance en toi pour lâcher ces garde-fous, ces personnes qui étaient là pour te surveiller. Je sais pas, est-ce que ça te parle ça?
Oui, ça c'est sûr, je sentais une grande fragilité, donc je me suis dit, je ne peux pas vivre toute seule. Et il y avait une sécurité financière, matérielle, ce que tu veux, hein, un mari qui m'aidait si j'avais des problèmes avec mes papiers administratifs, et lui il était à fond dedans, voilà, et tout était à son nom aussi.
Ah oui.
Donc extrêmement, moi, ouais, complètement la fille qui... La fille qui sait pas faire et qui peut pas vivre toute seule, mais lui, il a bien fait en sorte aussi que j'ai besoin de lui, hein, de me garder bien. Donc, bon, bah, je me suis dit, OK. Déjà, je suis partie à Bali 3 semaines au mois de mai pour vraiment réfléchir, me poser. Bali, pour moi, je me suis dit, ça va être magique, il va se passer un truc. Et c'était juste fabuleux parce que j'ai eu aucun trouble alimentaire pendant 3 semaines. Rien,
Wow.
rien. Pas besoin de vomir, pas besoin de.
Êtes-vous toute seule, toute seule?
Ouais, toute
Ouais.
seule. Proche de mon corps, de mon cœur, j'ai écrit beaucoup. Et oui, ouais, c'est une sorte d'emprise. Et c'est pour ça que je pense que tant que je suis pas, tant que je suis toujours liée à cette maison, tant qu'elle n'est pas vendue, tant que je continue à payer le prêt, parce qu'il y a en 3 ans pour finir de la payer, et que ma fille y habite toujours, il y a aussi ce truc-là dans ma tête, c'est si jamais j'ai besoin de vomir quand j'y vais, il faut qu'on me laisse vomir. Et donc, comme je ne peux pas m'en empêcher, encore une fois, c'est comme une envie de faire pipi, je n'ai pas envie qu'elle sache. Ces gens, laisse-moi vomir si je veux vomir, mais si elle sait qu'elle me surveille et qu'on m'empêche de vomir, moi, pour moi, c'est affreux. C'est-à-dire, on m'empêche d'aller faire pipi, quoi.
Ouais. C'est une
C'est
torture.
une torture, exactement. C'est-à-dire, si je ne peux pas vomir, parfois, ça peut être une torture. Et c'est drôle parce que je le sens quand ça vient dans ma tête. Je sens un petit truc qui me dit, hop, ça va partir en vrille. Et c'est dans le. Je te montre l'arrière du cerveau à droite. Peut-être c'est là où il y a le trou, j'en sais rien, mais il y a une toute petite, je ne sais pas si c'est une voix ou pas vraiment une voix. C'est une petite alarme qui se déclenche. Hop, là, c'est sûr que ça va partir en vrille. Par contre, quand je sais que je ne pourrai pas, c'est vraiment fermé et je le m'oblige à le fermer. Mais c'est aussi une torture.
Mais oui.
Parce que je me prépare à ne pas avoir envie de faire pipi. C'est ça. Donc je me dis, il ne faut pas trop que je boive, pas trop que je mange, pas trop que.
Ouais. Il faut
Faut que je
appuyer.
contrôle.
Oui. Ouais, alors c'est tout le temps. Oui, c'est ça, c'est le
C'est une
besoin de
maladie du
contrôle.
contrôle, hein. C'est une
Ouais.
maladie du contrôle, hein, la boulimie et tout ça. Mais c'est le contrôle. On contrôle quoi? Ben, on contrôle les émotions, en fait.
Ouais.
Ne pas trop, pas trop, pas assez, pas trop, pas des excès, juste. Voilà, rien,
Oui,
en fait.
ben oui.
Je me plains. C'est un peu compliqué d'avoir du calme plat dans une journée. Un
Ben
peu
oui, parce qu'on est
compliqué.
des êtres vivants, vraiment vivants, quoi. Et puis toi, tu es pleine de vie et
C'est
d'émotions
ça.
et.
Et d'ailleurs, dans ton interview là, avec Thibault et tout ça, c'est vrai, j'entends souvent survivante de l'inceste. Mais survivante, mais quand est-ce qu'on vit, quoi? Parce
Oui.
qu'effectivement, on est tout le temps en train de survivre.
Oui.
C'est la dissociation permanente, c'est une survie.
C'est
Et c'est
ça, oui.
fatigant. Donc là, moi, je suis partie pour décider de vivre. Donc effectivement, je pense qu'il va falloir un peu de temps, tu vois. Tu vois, ça se trouve, si tu refais un podcast avec moi dans un an, je suis sûre que ça a complètement changé.
Ah ben avec
Je
plaisir.
suis quasiment sûre. Je suis quasiment sûre parce que là, je me donne un an en Belgique pour dans ce pays de douceur. Moi, la Belgique, c'est un pays de douceur pour moi. Je suis à Mons, dans une ville. Voilà, les gens sont gentils, sourient tout le temps. Je me fais des copains là, à la salle de sport et tout ça. Mais ils sont vraiment adorables. Les Montois, en tout cas les Belges, pour moi, ils sont adorables. Ils ont le cœur sur la main. Ils sont bons enfants. Je me donne un an ici parce que je pense que c'est vraiment un endroit où je peux me reconstruire. Et puis je fais un petit bilan au mois d'août là, voir
Ouais.
où j'en suis. Voilà.
Bah, je te souhaite que ce soit. Mais moi, j'ai aucun doute. Enfin, après, c'est vrai que c'est compliqué. On a tous des parcours. Comme tu dis, il y a la survie et ça marque. C'est vraiment indélébile dans ce que
Ouais.
ça a comme conséquence, l'inceste, parce que c'est
Oui.
tellement multidimensionnel,
Bah
les
oui.
traumas, enfin les séquelles que ça peut avoir. Mais j'ai une telle confiance en notre puissance aussi, parce que dans survivant, il y a quelque chose de très puissant. Tu survis
Ah
à quelque chose de tellement énorme.
oui.
Et donc, il y a cette force-là qui peut être exploitée. C'est ce que tu fais dans ton métier aujourd'hui, dans tous les métiers,
Oui.
même si ça a été des postures de dissociation, comme tu dis, par moment, que ça a été même. Je t'ai entendu dans cette vidéo, donc je te disais que tu as fait avec. Excuse-moi, je ne me rappelle pas son prénom.
Lucille.
Lucille.
Lucille Joseph, ouais.
Voilà, où tu disais, tu exprimais à quel point il y avait des moments où tu étais sur scène et carrément tu dormais, comme tu pouvais plus du tout dormir la nuit, tu dormais
Ouais.
sur scène, mais
Ah
tu
oui.
étais capable, avec cette force que
Ouais.
ça demande
Ouais.
la force que ça demande à un enfant de supporter ce qu'on lui impose, qui est surhumain, qui est inhumain.
Oui, c'est vrai.
Et ça demande une force surhumaine. Et
Oui.
En fait, si on n'en meurt pas, parce que malheureusement, il ne faut pas oublier qu'il y a des personnes qui meurent des conséquences, que ce soit parce qu'elles se suicident ou que ce soit parce que plein d'autres raisons, il y a des accidents, il y a des maladies irréversibles, etc. Mais quand on survit à ça, bah, on a une puissance tellement incroyable que bah, on peut surmonter tout un tas de choses. Et puis, tu as un mental
Mais c'est sûr.
d'acier, tu as tout ce qui... Tout,
Ah, mais
voilà.
oui. Alors, le mental, là, puissant.
Ouais. Alors, ça c'est une sacrée force, mais ça nous dessert aussi parce que bah, du coup, on est comme des robots. Et puis, effectivement, bah, la dissociation, ça marche à fond. Bah, du coup, je ne sais plus où je voulais aller avec tout ça. Mais en
Ben
tout
oui,
cas,
mais
c'est...
si, si, parce qu'on parlait de le survivant,
Ouais,
voilà,
ouais,
et la force que ça donne, mais tu as raison, c'est vrai que
ouais.
ça donne.
Ouais. Ouais. Ça
Et,
donne
mais
une
comme tu
force,
dis, c'est assez revers aussi. Après, il faut voilà, aller trop dans les excès.
ouais.
Faut trouver un équilibre, en fait, hein, c'est tout. Un
Ouais.
équilibre dans lequel on soit bien, réapproprier son cœur, ses émotions, apprendre à vivre, tout simplement, apprendre à vivre vraiment sans
Ouais.
survivre, quoi. Ça veut dire pour moi être vrai. Être vrai, et je me suis aperçue d'ailleurs que plus je me respectais, donc plus j'arrivais à dire les choses, même si ça allait à l'encontre de ce que voulait l'autre, ben plus j'étais respectée.
Ouais.
Voilà. Et ça, j'ai fait l'expérience plusieurs fois récemment, bien sûr, enfin récemment, ouais, dans les 3 dernières années, et je me suis dit, mais en fait, si je m'exprime vrai, ben c'est fou parce qu'on continue à m'aimer.
Et oui, c'est
On ne me
ça.
rejette pas. C'est génial. Ah ouais, d'accord. Waouh.
Et oui, c'est ça, c'est un apprentissage et un entraînement, une répétition
Ouais.
chaque instant, quoi. C'était...
Voilà.
Ouais.
Et avant, je me cachais derrière le masque de la chanteuse. Hein, c'était beaucoup la chanteuse. À chaque fois, j'allais quelque part. Ah ben, là, une chanteuse, la chanteuse, la chanteuse. Après, c'était la thérapeute, la thérapeute, la thérapeute. Ouais, mais Anne-Sophie, elle est où? Mais je faisais exprès. Hein. Enfin, je veux dire, on est responsable aussi de ce qu'on crée. Hein. Donc, la responsabilité, bah, j'étais bien contente d'être cachée derrière, quoi.
Oui, mais tu faisais exprès, mais en fait, c'est aussi bah, c'est une réponse traumatique, hein, comme tu dis, c'est
Oui,
juste.
exactement. Oui, oui.
Donc, tant que
C'est
tu n'avais
pas...
pas
Là, je te dis pas ça
conscience.
en... Non, non, je te dis pas ça en culpabilisant. C'est que voilà, je savais très bien que je créais ça
Oui.
pour me protéger. Voilà, je dis, bah, si
Oui,
je suis vraie, on va pas m'aimer. Si je dis
oui.
la vérité, on va me rejeter. Donc, je préfère me cacher derrière ces images de femme qui brille, machin, et tout va bien. Je sais
Oui.
faire ça aussi, ouais.
Oui.
C'est pas la vraie, vraie Anne-Sophie derrière. La vraie Anne-Sophie, voilà, elle est là aujourd'hui, tu vois. Voilà.
Et donc aujourd'hui, tes relations avec ta fille, elles sont pour toi de quel ordre?
Elles sont super, hein. Vraiment. Elle se confie à moi parce qu'évidemment, elle est partie dans l'hypnose aussi. Donc,
Oui.
elle teste des choses, elle teste des séances, elle m'envoie ouais, quasiment tous les jours un petit vocal ou tous les 2 jours. Ou, quand j'avais le Covid, là, elle m'a envoyé du Reiki à distance. Maman, tu me diras comment tu te sens. Ça m'a beaucoup aidée d'ailleurs. Elle est forte, ma fille, elle a du magnétisme naturel. Hein. Elle a déjà, petite fille, elle arrivait à enlever les douleurs. Donc,
Ah.
elle a vraiment un don, vraiment. Elle va faire une excellente thérapeute, de toute façon, elle est très, très mature. Donc, nos relations, elles sont super. On se voit, ces gros câlins. Elle admire qui je suis, vraiment, je le sais. Elle ne me le dit pas souvent, mais je le sais. Et bah ouais, c'est génial. Notre relation, elle est géniale parce qu'elle n'est pas fusionnelle. Et en même temps, elle reste proche quand même.
Ouais. Et c'était pas une partie gagnée quand même d'avance, parce que quand
Bah
vu
non.
le départ, quand elle t'a découverte alors qu'elle avait que
Ah ben là.
5-6 ans, enfin 5 ans
Oui,
et
puis
6 ans.
surtout, ouais. Et puis quand je suis allée 4 mois à l'hôpital Sainte-Anne, hein, enfermée 4 mois à
Oui.
Sainte-Anne, les visites, donc elle avait 6 ans, je me souviens, là, je l'ai vue une fois. Et après, j'ai su par quelqu'un d'autre, je sais plus si c'était par une infirmière ou par mon mari de l'époque, qui me disait, ne veux plus te voir, ta fille. Parce qu'elle avait peur d'attraper ma maladie, comme si c'était un rhume.
Ah ouais.
Et quand j'étais avec elle, je n'étais pas vraiment présente non plus. J'étais complètement dissociée. Déjà, j'étais sous médicaments extrêmement puissants. Donc, je ne savais plus si je l'aimais ou pas. Ou... Non, non, ouais. Ouais. Là, du coup, elle s'est rapprochée de son père. Et puis, moi, j'existais plus. Hein. Mais c'était aussi, elle se protégeait, la petite.
Oui,
Hein.
bien sûr.
Ouais.
Et comment t'as pu alors au cours des années faire en sorte que ça se rétablisse? Et que vous arriviez aujourd'hui à cette relation équilibrée.
La parole. Je lui ai raconté ce que j'avais vécu, elle a compris. Ouais, la parole et faire des activités avec elle,
Ouais.
toutes les deux. Je t'avoue que après, c'est quand même des gros trous noirs parce que j'ai encore une fois, j'étais très, très médicamentée
Bien
pendant
sûr.
7 ans, encore après les hôpitaux et tout. Donc, j'étais comme une sorte de robot, mais je savais que voilà, il fallait que je rétablisse quelque chose avec elle. Donc, j'ai plus vraiment de souvenirs dans les détails. Je pense aussi que c'est elle aussi qui a fait le pas, hein, parce que de par sa maturité et son cœur, elle a tellement un cœur doux, cette petite, quoi. Donc, elle voulait se rapprocher de moi. Mais ma pauvre maman, combien de fois j'ai eu ça, ma pauvre maman, et puis maman, toutes les larmes que tu as versées de ton corps, un jour on avait écrit un texte, il avait vraiment pleuré, que toutes les larmes que tu as versées puissent nourrir les fleuves de la terre, ou un truc comme ça, elle m'avait écrit. C'était aussi touchant. Ouais, elle comprenait, en fait. Je savais qu'elle comprenait ma souffrance. Et je crois que ça l'a vraiment aidée à mûrir aussi, hein, à être qui elle est aujourd'hui, clairement. Clairement.
Ouais.
Puis moi, non, j'étais assez à l'aise à lui parler de ce que j'avais vécu, de comment je vivais.
La voix, encore une fois. La
Ouais,
voix.
encore une fois. Voilà, on en revient. Toujours la voix, la parole. Si les choses sont tues dans une famille. Voilà,
Ouais.
il y a
Alors avant qu'on conclue, est-ce que tu voudrais justement partager avec les mamans, ou j'espère qu'il y a d'autres personnes qui, au-delà des mamans et au-delà des mamans qui ont vécu l'inceste, partager une piste, s'il y en avait une, pour être dans cet équilibre, et même si nous sommes toutes, et toi aussi, sur ce chemin de résilience, qu'est-ce que tu as envie de leur partager pour les aider à évoluer aussi, à être mieux?
Ben, j'ai envie de leur dire d'écouter leur intuition, leur cœur, ce que leur cœur dit, parce que le cœur, il se trompe jamais, lui. Le cœur, quand il dit quelque chose, ça fait vibrer le corps. C'est comme quand on a une super envie, je sais pas moi, envie d'aller au cinéma ou quelque chose qui, oh ouais, j'ai trop envie de ça. Il y a quelque chose qui fait vibrer. Et qui redonne vie, du coup, dans le mot vibrer aussi, il y a vie, voilà, ça commence pareil, mais vraiment d'exprimer ce qu'elles ont dans le cœur. Sans mentaliser, voilà, sans passer par oui, mais si je dis ça, comment l'autre il va l'accueillir? Oui, mais si je dis ça se trouve, on va plus m'aimer. Oui, mais si je dis ça. Parce que là, moi, c'est vraiment des surprises, hein. J'ai été très surprise quand je m'exprime avec mon cœur et que je dis vrai, alors l'autre en face, il respecte et il réagit super bien, mais vraiment. Que ce soit l'autre, je veux dire le mari ou l'enfant ou d'autres personnes, hein, mais le fait de parler vrai avec son cœur, c'est incroyable les retours qu'on a. Donc voilà, juste et pas à pas, un jour après l'autre, juste un jour après l'autre. La culpabilité, elle est normale et en même temps, on peut en faire quelque chose. On peut en faire quelque chose sans qu'elle nous ronge, quoi. Juste dire, eh ben voilà, c'est comme ça. Je ne peux pas faire mieux que ça aujourd'hui. Demain, c'est un autre jour. Mais aujourd'hui, c'est comme ça.
Magnifique. Donc, si j'entends bien, vibrer ce qui nous fait vraiment envie au-delà de nos peurs
Exactement.
et un jour après l'autre.
Voilà. Tout à fait.
Merci beaucoup, c'est un magnifique mot de la fin.
Merci Solange à toi pour ce moment, ça m'a fait. Oui, c'est du sport, hein. C'est.
C'est vrai.
Merci beaucoup à toi pour ton attention, pour ta bienveillance, ton amour pour les gens aussi. Et je vais réfléchir à cette idée d'Haïti de toute façon qui me trotte un peu dans la tête depuis un certain temps. Donc, ouais.
Ouais, c'est une magnifique thérapie. Je te la conseille.
Merci à toi, vraiment.
Avec grand plaisir. Merci d'avoir écouté ce podcast Maman au-delà de l'inceste. Si tu as aimé ce podcast et que tu souhaites soutenir ce programme, n'hésite pas à le faire savoir en mettant des pouces, des petites étoiles ou bien des cœurs en fonction de la plateforme sur laquelle tu l'écoutes. Et n'hésite pas surtout à en parler autour de toi et à le partager. Car plus on parlera de ce sujet difficile de l'inceste avec luminosité et espoir, plus le tabou pourrait être brisé avec efficacité,
plus nous pourrons protéger nos enfants et réhumaniser notre société. Je serai aussi ravie d'entendre ou de lire tes commentaires, tes retours, que tu pourras me faire passer par message privé ou bien en commentaire sous l'audio. Et si tu te sens l'âme, le cœur et l'envie de contribuer à enrichir ma voix en témoignant toi-même de ton parcours lumineux de maman au-delà de l'inceste, n'hésite pas à me contacter et je me ferai un immense plaisir de t'accueillir dans cette émission.